Masque tombe sur RCN.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Les Masques tombent, l'émission où on parle de culture et de vie associative dans la métropole du Grand Nancy. Vous pouvez nous retrouver en vidéo sur YouTube et en podcast sur le site de la radio www.rcn-radio.org. Aujourd'hui, je reçois Arnaud Santamaria qui est auteur, compositeur et interprète.
RCN, Les Masques tombent, Elisa Gautron.
Bonjour Arnaud.
Bonjour.
Vous allez bien ?
Eh ben, très très bien, je suis ravi d'être avec vous.
Également, est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu ?
Oula. Alors je m'appelle Arnaud Santamaria, je suis auteur, compositeur, interprète depuis un paquet de temps maintenant. Je viens de sortir un nouvel album qui s'appelle Autant pour moi et je suis ravi de vous le présenter aujourd'hui. Voilà.
Alors, avant de parler de votre album dont on parlera en fin d'émission, on va commencer par votre parcours dans la musique. Alors comment est-ce que vous avez commencé la musique ?
Assez basiquement en fait. J'ai commencé à prendre la guitare qui traînait dans un coin et elle est devenue ma meilleure amie. Mm-hmm. J'avais 14 ans, on va dire que c'est l'âge où on a envie de tester des choses et j'ai commencé à jouer de la musique et j'ai commencé tout de suite à composer en fait, bêtement, bizarrement, c'est quelque chose qui m'a tout de suite conduit vers la professionnalisation, on va dire, assez tôt et je savais que j'en ferais mon métier.
Et pourquoi choisir la guitare ?
C'était ce qu'il y avait. c'était la guitare de ma mère qui était posée dans un coin, une guitare nylon un peu fatiguée. Mais elle a eu le mérite de me donner envie de jouer de la musique, en fait.
Et donc ensuite, vous avez commencé à composer vos propres musiques. Comment c'est venu ?
Alors très tôt, c'est bizarre parce que j'avais envie de d'utiliser la musique comme... j'avais envie de la composer immédiatement, en fait. J'ai pas fait beaucoup de reprises, je faisais pas partie de ces gens qui pouvaient jouer 15 chansons autour d'un feu et être certain qu'il y avait plein de reprises et que tout le monde allait chanter. Non, assez vite, j'ai utilisé la musique pour l'écrire et la composer. Je sais pas, c'est comme ça, c'est venu sans vraiment savoir trop pourquoi, comme si c'était déjà là depuis toujours, en fait.
Et qu'est-ce que vous écriviez comme type de musique un peu au tout début ?
Alors, au tout début, c'était j'écoutais du rock, donc j'écrivais du rock un peu dur, je faisais des gros riffs de son qui tâchent un petit peu et qui faisaient beaucoup de bruit, mais il y avait toujours un sentiment de mélodie, j'essayais d'être un peu fin sur ce que j'écrivais. Alors j'étais pas le meilleur du monde, mais en tout cas je me battais pour avoir des vraies mélodies, des vrais trucs qui sonnent, qui résonnent, qui t'emmènent en fait, voilà, c'était... Et puis voilà, au fil du temps, j'ai glissé vers d'autres styles de musique. Je suis rentré dans le classique, dans la variété et dans la pop. Parce que c'est plus riche, en fait, que tout le reste. Mmh. Tellement large qu'on a le loisir de faire ce qu'on veut. Et voilà, et ça s'est passé comme ça.
Et donc, vous avez appris en autodidacte. Vous n'avez pas du tout été au conservatoire, au suivi de formation.
Alors, j'ai fini par aller au conservatoire. Je suis allé dans une école anti-conservatoire d'ailleurs. C'était la Scola Cantorum qui m'a appris un petit peu à orchestrer les cordes, donc les quartettes, les quintettes, de manière à ce que je performe un peu plus, que je sois un peu plus, que je comprenne ce que c'était que la musique pour de vrai, quoi, avec ses grandes valeurs, ses grandes hauteurs. Mais au tout départ, effectivement, je suis solo, j'apprends tout seul. Ça me tombe dans les mains et puis j'appuie sur les bonnes cases, on va dire. Et puis voilà. Mais pour parfaire, il a fallu quand même que j'aille plus loin. Et donc j'ai été dans une ou deux écoles. J'ai fait une école d'ingénieur du son aussi qui m'a permis de comprendre ce que c'était qu'un enregistrement, de la production, de bout en bout, quoi.
Et donc ensuite, comment vous avez évolué dans la musique ? Qu'est-ce qui s'est passé ?
Alors, il s'est passé plein de choses. J'ai d'abord été signé en label, un petit label qui s'appelait Glumo Records. Et donc là, je me suis rendu compte que c'était possible d'être professionnel de la musique. Et j'ai sorti mes premiers titres. Et puis voilà, ça m'a emmené sur les routes. J'ai fait mes premiers concerts jusqu'à ce que je finisse par faire des grandes premières parties comme Florent Pagny, De Palmas. De Palmas, j'ai fait 70 dates avec lui en première partie. Ça m'a amené sur toutes les scènes de France, et c'est juste fabuleux parce que tu apprends vraiment ton métier dans ces conditions-là. J'ai fait une émission de télévision qui a...
On pourra reparler un petit peu de tout ça. On va commencer par vraiment vos débuts, on va dire, dans la musique. Comment est-ce que vous avez rencontré ce label avec qui vous avez signé ?
À l'époque, quand on voulait signer quelque part, on tapait aux portes de tout le monde. Mm-hmm. Je me souviens avoir été voir EMI, Universal, etc. J'ai pas arrêté de taper aux portes. À l'époque, on pouvait encore laisser des cassettes et des disques. On espérait obtenir un contrat, avoir l'intérêt d'un directeur artistique. C'était vraiment encore comme ça fonctionnait à l'ancienne, quoi, au coup de cœur d'un directeur artistique qui se disait, tiens, lui, je crois en son talent, je crois en son histoire artistique, je vais le défendre et on va faire un disque. Et donc moi, je tapais aux portes de manière très 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 banale. J'envoyais mes disques et puis je téléphonais et puis j'attendais en bas de la maison de disques. J'essayais de croiser les gens et j'ai le premier contrat que j'ai signé, je l'ai signé un peu de cette manière-là, en allant taper à la porte d'un label. Et puis eux, ils ont été intéressés. Ils ont dit, ah, c'est cool ce qu'il fait. Bon, allez, on prend toi, on va essayer d'y aller. Voilà. Et puis ça s'est passé comme ça. Et puis le chemin, il s'arrête jamais, en fait. Une fois que tu es rentré dans ce process-là, que tu as fait ton premier disque, que tu as rencontré des premières personnes, que tu as été professionnel une fois, c'est fini. Tu l'es pour toujours. Et donc, tu continues de taper sur le même clou. Et puis, tu chopes de nouveaux contrats. Et il se passe plein de choses.
De quoi est-ce qu'ils parlaient vos premiers morceaux qui ont donc été enregistrés avec ce label?
Je crois que c'était des chansons de chansons françaises au départ. Le tout premier disque que j'avais fait était en anglais. Mmh. Mais ce qui a marqué les esprits et ce qui s'est passé, c'était tout de suite en chansons françaises, parce que je suis assez amoureux des mots, on va dire. Et j'avais déjà une petite griffe, quoi, une patte qui faisait que on reconnaissait ce que j'écrivais. Les thèmes étaient liés à mon époque, donc je ne sais pas ce que j'écrivais à l'époque, mais en tout cas, c'était déjà assez léché, on va dire.
De quoi est-ce que vous vous inspiriez pour écrire ?
Je m'inspire de la vie, en fait. Alors, attention, ma propre vie a sa source d'inspiration. Je connais peu de chanteurs qui ne parlent pas d'eux, en fait. Et à un moment donné, on parle de soi parce que c'est vital, c'est un exutoire. Donc, il y a plein d'histoires qui sont autobiographiques au final, et puis après il y a ce que je romance dedans et ce que j'utilise, puis il y a ce que j'utilise des gens que je croise. Je suis un amoureux de la nature humaine, donc j'écoute les histoires de tout le monde, je me baigne dedans et de temps en temps ça me donne des chansons.
Mmh. Alors avant de parler de vos premières scènes du concours de l'émission Rising Star dont vous parliez tout à l'heure, on va écouter C'est pas demain la veille et puis on revient juste après.
Oui, je sais qu'on ne s'aime pas, et bien sûr, j'ai pas grand chose à te dire. Tes noms d'oiseaux volent bien trop bas pour moi, et tardent un peu à se cacher pour mourir. J'ai pas ta route, ni ton orgueil de roi, ni ton fauteuil. Je vis debout sur des chaises, je fermerai les yeux sur tes promesses en bois. Mais si je ne vois pas, ça ne vaut pas que je me taise. Nous ne sommes pas les mêmes, et c'est pas demain la veille qu'on se ressemblera. C'est pas demain la veille qu'on se ressemblera. C'est pas demain la veille qu'on se ressemblera. Un peu amer, des bouteilles que j'envoie quand toi tu te sers, toi qui ne sers qu'à toi. Je peux pas liker ton champ et ta smala. T'as pas l'allure ni la carrure d'un gangsta. T'as pas les gènes, toi qui ne te gênes pas. Je préfère braquer mes sourires contre toi. Nous ne sommes pas les mêmes, et c'est pas demain la veille qu'on se ressemblera. C'est pas demain la veille qu'on se ressemblera. C'est pas demain la veille qu'on se ressemblera. On se ressemblera. C'est pas demain la veille qu'on se ressemblera. C'est que l'on s'aime, c'est comme ça, tout le monde paye, toi comme moi. Mais c'est pas demain la veille, c'est pas demain la veille qu'on se ressemblera. Se ressemblera.
Les masques tombent du lundi au jeudi de 13h à 13h30 sur RCN.
On est toujours avec Arnaud Santamaria, donc qui est auteur, compositeur et interprète. Alors Arnaud, comment c'était vos premières scènes ?
Les premières scènes, c'était catastrophique. Les premières scènes, c'est toujours un truc un peu particulier parce que on se voit beau, on a l'impression qu'on attend que nous et qu'on va être brillant et puis voilà. Et en fait, pas du tout. Mais on est juste en train de tester le plateau et on essaie de regarder ce qu'on vaut. Je crois que j'ai commencé à être un peu sérieux sur scène quand j'ai arrêté de me regarder. En fait, je trouve que il y a le meilleur monde sur scène, c'est quand on est à poil pour de vrai. C'est celui où on se regarde plus du tout et où on arrive du coup à être complètement soi. Et c'est le moment où on donne le plus. Et ça prend un peu de temps avant d'arriver à ça, en tout cas.
Donc vous avez signé avec ce label dont vous nous parliez. Vous avez également sollicité les internautes à travers des plateformes participatives pour produire vos albums.
Alors ça, c'était assez marrant de jouer avec le participatif. D'abord, j'ai eu du bol parce que j'étais produit deux fois sur deux plateformes différentes. Donc ça montrait que je suscitais un petit intérêt, en tout cas. Et ce qui est assez fabuleux dans le participatif, c'est le rapport aux autres. Alors il y a le pendant de ce truc-là. Il y a quelque chose qui est cool et quelque chose qui l'est moins, c'est que on appartient un petit peu aux internautes qui ont aidé à financer un disque ou une promo. Et c'est chouette parce qu'on récupère une fanbase, un nombre de gens qui ont envie de se battre pour toi et qui viennent te voir en concert, qui parlent de toi, etc. Et en même temps, tu leur dois quelque chose. Donc t'es pas complètement libre dans le modèle, t'es quand même quelque chose de. T'es quand même, tu restes un produit, quoi que tu fasses. T'es un produit qui fait qu'en réalité, ils ont l'impression que tu vas pouvoir rapporter de l'argent, etc. etc. Donc il y a le côté positif et le côté négatif qui fait qu'en réalité, tu t'appartiens plus et tu appartiens aux gens qui t'ont produit, quoi.
Alors justement, en parlant d'appartenir aux gens qui vous ont produit, donc vous avez sorti deux albums grâce à ces financements participatifs. Donc il y a un nommé Arnaud Santamaria et le deuxième 1365. Pourquoi du coup 1365
pour être plus exact.
62, pardon.
1362, c'est le nombre de producteurs qui m'ont produit, par exemple. Donc il y a quelque chose d'assez rigolo là-dedans, c'est que je me sentais obligé de les mettre à l'honneur. Et je trouvais ça assez original d'appeler cet album 1362, qui correspond au nombre exact de gens qui ont investi sur cet album. Et c'est ce que je disais il y a deux secondes, c'est la réalité, je ne m'appartenais plus, je leur appartenais à eux, jusque dans le titre de ce disque-là. C'est eux que je mets à l'honneur. Et quelque part, je les remercie parce qu'ils m'ont permis de sortir un disque que j'aurais sans doute pas sorti, en tout cas pas dans ces conditions-là.
Et qu'est-ce que ça vous a apporté comme expérience justement de passer par ces plateformes et pas par une voie traditionnelle ?
Alors il y a un truc qui est assez chouette là-dedans, c'est qu'on reste maître de ses choix. Et j'ai tendance à garder la main. Je produis tout, ça, j'arrange, je réalise, j'enregistre, je mixe. Je suis sur tous les fronts en fait. Et le participatif permet ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une structure derrière qui est suffisamment forte pour pouvoir imposer des choses. On est soi-même maître de sa situation, de ses albums, et ça j'ai adoré parce que jusqu'au bout, j'ai maîtrisé quel clip j'allais sortir, comment j'allais le faire. Et c'est la différence qu'il va y avoir entre une maison de disques traditionnelle qui, elle, vient te soutenir, mais qui prend des décisions sans toi, qui avance sans être complètement conquise ou voilà qui est dans beaucoup de chiffres que je n'avais pas dans le participatif. Après avoir découvert la différence, je me suis bien rendu compte que c'était essentiel comme différence.
Mmh. Alors ensuite, vous avez commencé à enregistrer votre troisième album tout en participant à une émission de télévision sur M6.
Tout à fait. Alors ça, c'était une expérience géniale. D'abord, j'adore la télé. Je me suis rendu compte que j'aimais ça. Je trouve qu'il y a un truc chou qui est chouette, quoi, qui fait que bah, c'est du spectacle. La télévision, c'est du spectacle. Et j'ai fait une émission où je voulais pas faire télécrochet depuis des années. Ça faisait longtemps que je disais, bon, je m'en fous, ça m'intéresse pas, c'est pas mon truc. Et Rising Star, enfin M6, vient me chercher pour l'émission. Et il dit, voilà, ton profil nous plaît. Donc, ils viennent me caster. Et je refuse au départ en disant, bah écoutez, non, si j'avais dû faire une émission de télé, je l'aurais fait depuis longtemps, ça m'intéresse pas. Et puis ils insistent lourdement, et puis je finis par dire, bah écoutez, c'est pas compliqué, si je viens chanter dans votre émission, je chante mes chansons, c'est tout. Y a pas de blabla, je viens pas chanter vos reprises, je viens pas chanter votre imposition, je viens chanter ce que j'ai envie de chanter. Et donc le deal, il est tout de suite en place avec M6 enfin la chaîne en tout cas vraiment, et l'émission. Et je pensais faire une chanson en fait. Je pensais juste chanter une chanson et puis rentrer à la maison en réalité. Et pas du tout, j'ai traversé toute l'émission avec mes propres chansons jusqu'à la finale et c'était un moment génial. Puis génial parce que tu rencontres le public de manière plus large. C'est-à-dire que tout ce que je pensais de la télévision, bah en fait c'était des conneries. Je me suis rendu compte que c'était une vitrine qui était folle. Que d'un coup, d'avoir un regard sur toi aussi large, bah, ça te permet de conquérir plus de gens et d'avancer beaucoup plus loin, en fait.
Qu'est-ce que ça vous a fait, justement, de chanter vos propres compositions dans cette émission ?
Ah, c'était jouissif. J'avais le droit de le faire, donc c'était fabuleux d'avoir, encore une fois, un peu de pouvoir sur mon destin et sur un système. C'est-à-dire que personne n'avait le droit de le faire. Et puis moi, j'avais juste dit, bah non, soit je le fais, soit je m'en vais. Et en réalité, ils ont été hyper bienveillants. La prod a été très bienveillante, la chaîne aussi. Parce qu'en fait, ils ont validé, ils ont trouvé que les chansons étaient cool et que du coup, bah, il n'y avait pas de raison de ne pas le faire, en tout cas. Mm-hmm. Et puis, bah voilà, ça m'a permis, d'exister encore un peu plus loin, un peu plus.
Alors, on parle de vos chansons depuis tout à l'heure, mais comment est-ce que vous décririez un petit peu votre style musical pour quelqu'un qui ne vous a jamais écouté ?
Je crois que je fais une chanson française un petit peu léchée, un peu rock'n'roll par moment, un peu dur par moment, très arrangée. Il y a beaucoup de monde dans les morceaux. Il y a des cordes, il y a des violons, il y a des vraies batteries, des vrais pianos. Et je fais de la chanson où il y a du texte, donc on peut essayer d'aller s'accrocher à quelques mots. Et puis bah, c'est, au final, ça reste de la pop parce qu'on a plein de petits moments qu'on peut chantonner et qui vont rester. Voilà. À peu près. Si je peux le définir, on va dire ça.
En parlant de texte, justement, vous avez sorti un quatrième album qui s'appelle Paris ma belle. Est-ce que vous pouvez en parler un petit peu?
Alors Paris ma belle, c'est juste un partenariat avec les associations du 13 novembre. La 13-11-15 pour les cités, la FENVAC. Où j'avais décidé d'écrire et que les droits et les bénéfices qui résultaient de ça allaient aux associations aux victimes des attentats. C'était un moment assez particulier, assez douloureux en réalité. Je rentrais chez moi avec des histoires de tout le monde en fait. Donc j'ai passé 6 mois à noyé dans la peine des gens et dans ce qui fait que bah, les attentats ont été juste dramatiques pour ces gens. Ils ont perdu leur fille, leur fils, leur compagne, et puis tu rentres encore une fois chez toi avec l'intégralité des histoires de chacun. Donc j'étais un espèce de psy bizarre où j'avais choisi de m'engager pour les aider, et puis en réalité c'est une charge qui est très très lourde à porter, et voilà, ça n'a pas été qu'une affaire simple, tout ça.
Alors, avant de parler de votre dernier album qui est sorti, qui s'appelle Autant pour moi, on va écouter On ne vit qu'une fois, et puis on revient juste après.
On m'a déjà dit que rien n'est facile. dit, t'es trop loin du champ des possibles. On m'a déjà dit, ça ne vaut plus la peine. Peine perdue pour demain, il n'arrivera plus rien. Je peux tout entendre, mais la seule chose qui nous rassemble, c'est qu'il n'y a pas de route parfaite. Faites le vide dans vos têtes. Et peut-être que le soleil viendra. Quels que soient nos choix, on ne vit qu'une fois. On ne vit qu'une fois. Ta-da, ta-da-da-da. On ne vit qu'une fois. On ne vit qu'une fois. Ta-da, ta-da-da-da. On m'a déjà dit qu'il faut rester prudent. Mais moi quand tombe la pluie, je peux pas attendre le printemps. J'ai trop d'envie et le cœur impatient. Pour rester bien assis, ne faire que ce qu'on me dit. Je peux tout entendre, mais la seule chose qui nous rassemble, c'est qu'il n'y a pas de route parfaite. Faites le vide dans vos têtes. Et peut-être que le soleil viendra. Quels que soient nos choix, on ne vit qu'une fois. On ne vit qu'une fois. Ta-da, ta-da-da-da. On ne vit qu'une fois. On ne vit qu'une fois. Ta-da, ta-da-da-da. On m'a déjà dit rien de ce que je ne sais déjà. Mais je n'écoute que le bruit de mon cœur qui se débat. Déjà dit rien de ce que je ne sais pas. Mais je n'écoute que le bruit de ce en quoi je crois qu'il n'y a pas de route parfaite. Faites le vide dans vos têtes. Et peut-être que le soleil viendra. Quels que soient nos choix, on ne vit qu'une fois. On ne vit qu'une fois. Ta-da, ta-da-da-da. On ne vit qu'une fois. On ne vit qu'une fois. Ta-da, ta-da-da-da. On ne vit qu'une fois. On ne vit qu'une fois. Ta-da, ta-da-da-da. On ne vit qu'une fois. On ne vit qu'une fois. Ta-da, ta-da-da-da. On ne vit qu'une fois.
Les masques tombent sur RCN.
On est toujours avec Arnaud Santamaria, qui est auteur, compositeur et interprète. Alors Arnaud, vous venez de sortir votre cinquième album.
J'adore, parce que ça fait du chiffre.
Il s'appelle Autant pour moi. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu?
Alors oui, je vais vous en parler de la meilleure façon possible. c'est toujours chouette de sortir un nouvel album parce qu'il est dans le moment en fait. C'est un album qui est contemporain, qui a cette couleur actuelle et en même temps qui est dans ce que j'ai vécu ces 3-4 dernières années et ce que j'ai envie d'en raconter en fait. Autant pour moi, rien que le titre raconte de plusieurs choses. D'abord c'est une excuse, autant pour moi. Et donc je pense que dans ce disque, il y a pas mal d'excuses, il y a pas mal de moments que je raconte où je me dis tiens, ça j'aurais pu faire autrement. Qu'est-ce que j'ai vécu, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que j'aurais dû faire et pas faire, etc. Donc ça c'est un peu l'idée numéro un, et l'idée numéro deux c'est le temps. Il y a un truc qui se passe avec moi qui commence à être fatigant, c'est que je supporte plus que le temps passe. Et j'aimerais bien retourner le sablier en fait voilà, il y a le double jeu de mots parce que je parle beaucoup du temps qui passe. Dans peu importe, par exemple, je trace 3 périodes de vie, 2 mois, 2 ans, 2 jours. Enfin voilà, il y a tout ce truc-là où dans le temps nous fume, nous sommes, nous étions, nous fume. Il y a vraiment ce rapport au temps qui passe et à ce que ça fait et ce que ça abîme quoi en réalité. Alors il y a des points de positives, il y a des points de positives, il y a ce qui fait que quand on vient d'écouter, on ne vit qu'une fois, c'est le rapport au temps immédiat et aux choix qu'on doit faire et qu'on peut faire, qui peuvent nous changer notre vie et qu'on doit faire hein, la plupart du temps en réalité, parce qu'effectivement on ne vit qu'une fois. Il y a des moments plus nostalgiques dans aussi Philippe Keller où je dis le premier rendez-vous, celui qui met tout ton cœur à genoux est déjà trop loin. Voilà, c'est les choses qui sont passées, elles sont passées quoi. Alors oui, il faut regarder devant avec quelque chose de beau et un soleil à aller attraper, quoi. C'est le seul débat qu'il faut avoir derrière, mais il y a quelque chose qui me pique, en tout cas, qui me heurte vraiment dans l'idée que le temps passe et que c'est inéluctable. Voilà.
Mm-hmm. Alors, est-ce qu'il y a une chanson en particulier dans cet album qui vous tient plus particulièrement à cœur ou que vous aimez un petit peu plus que les autres?
Je crois que j'aime beaucoup Le Temps nous fume. Je pense que c'est une chanson que j'ai écrite avec la valeur de ce que j'avais envie de raconter vraiment dans cette idée que, encore une fois, le temps massacre, en fait. Il garde pas les premiers émois, en fait. Il les supprime presque. Voilà. Donc elle est dure, cette chanson. C'est une histoire d'amour, évidemment, qui s'éteint, mais qui s'éteint avec la réalité du fait qu'en fait, elle ne reviendra jamais, cette histoire d'amour. Mmh. Et je pense que dans la couleur de ce titre-là, okay, qui est un peu épaisse, un peu solide, avec des grosses basses, des beaux pianos, etc., des grosses batteries, je crois que j'aime sa forme et le fond que j'ai mis dedans, vraiment.
Donc votre album, il est sorti le 5 avril, il est disponible sur toutes les plateformes?
Oui, tout à fait, il est disponible partout, puis il y aura une version physique que je sortirai pas tout de suite, mmh, parce que je vais rajouter quelques inédits à cet album, voilà.
Est-ce qu'il y a des dates, une tournée de prévue?
Alors là, je viens de faire l'Européen à Paris, qui était complet, où on s'est vraiment éclaté. Ça signe une idée que oui, je vais partir en tournée plutôt sur 2025, mmh, parce que c'est très compliqué de monter des tournées aujourd'hui. Il faut que ça soit rentable et puis que on ait beaucoup de, enfin, ça se prépare longtemps à l'avance. Je savais pas si j'allais, ça faisait longtemps que j'étais pas remonté sur scène, et que j'avais pas sorti d'album, donc je savais pas si le public allait être au rendez-vous. Et puis bah, ça s'est confirmé avec un Européen complet à Paris. Et puis là, du coup, tu dis, bah, c'est bon, on repart sur la route. Et puis surtout, tu peux pas monter un show juste pour toi, quoi. Faut le monter pour les autres aussi. Faut aller se balader, faut aller le vivre. Donc là, je suis à fond. J'ai que envie de repartir sur la route.
Mmh. Et donc, on peut vous suivre sur les réseaux sociaux pour suivre un petit peu tout ça, vos actualités, vos prochaines dates?
Alors, faut me suivre évidemment sur mes réseaux sociaux que je maîtrise absolument à merveille. Et pas du tout. Je suis nul, mais alors d'une folie, je suis complètement nul avec les réseaux sociaux. J'indique des choses, donc ça va, on peut me suivre et puis on peut me retrouver évidemment dans quelques actualités. Mais si j'ai pas d'actualité, par exemple, je communique pas, je fais pas partie des gens qui mettent en avant le plat qu'ils ont mangé la veille. Et j'ai beaucoup de mal avec ça, mais voilà, je fais l'effort. Et donc effectivement, si on veut savoir où je vais jouer, on peut passer par Facebook, Insta et consorts.
D'accord. Alors pour terminer, qu'est-ce que vous pourriez dire comme dernier mot à ceux qui nous écoutent?
Alors qu'est-ce que je pourrais dire à ceux qui nous écoutent? Bah, déjà, vous faites le bon choix de rester sur cette radio, parce que c'est très sympa. Je dirais juste que j'ai très envie qu'il aille découvrir mon disque, et s'il aime, qu'il vienne le découvrir en scène, en salle, et que j'aurai grand plaisir à les croiser, à discuter avec eux. Voilà.
Merci beaucoup Arnaud de nous avoir accordé cette interview.
Pas de problème, c'est un plaisir pour moi.
Et puis on va se quitter en écoutant votre titre Une femme comme une autre, et je vous dis à très vite pour une autre émission des Masques tombent.
À bientôt, merci beaucoup.
Je suis une femme comme une autre. Je maquille ce que je sais. S'il fallait te faire croire que tout est de ma faute, je le ferais parce que tu me plais. Je suis une femme comme une autre. Je peux courir à perdre haleine pour te voir, te savoir sain et sauf, pour être sûr que tu reviennes. Mais quel que soit le gène, toutes nos erreurs sont humaines. Quelle que soit la gêne, pourvu que l'on s'aime, on s'aime, pourvu que l'on s'aime, on s'aime. Je suis une femme comme une autre. J'ai des aiguilles sous les talons pour te piquer, te quitter si c'est ta faute et m'en aller vers l'horizon. Mais quel que soit le gène, toutes nos erreurs sont humaines. Quelle que soit la gêne, pourvu que l'on sait, on sait, pourvu que l'on sait, on sait. Je suis une femme comme une autre, et peu importe si ça te gêne, X ou Y, à qui la faute? Toutes nos erreurs sont humaines, quelle que soit la gêne, pourvu que l'on sait. On sait, on sait.